Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Hélène Giannichini, bonjour.
Bonjour.
Sacha Blondeau, bonjour.
Bonjour.
Si je vous reçois aujourd'hui, c'est à l'occasion d'un événement qui va se tenir à la Philharmonie de Paris les 8 et 9 juin prochains. Une création, alors une création par trois personnes. Vous, Hélène Giannichini, vous, Sacha Blondeau et François Chéniaud, qui est à la fois danseur et chanteur. Donc une énorme création. Il y aura l'Orchestre de Paris, dirigé par Alain Altinoglu, et puis il y aura aussi de l'électroacoustique avec l'IRCAM. Vous, alors je vais peut-être commencer par vous, Sacha Blondeau, puisque vous êtes compositeur, vous composez toujours pour l'électroacoustique et instrumental, ou vous avez déjà composé pour un instrumental pur
Alors, bon, j'ai déjà composé pour instrument seul, sans informatique, sans électronique. Mais c'est vrai que c'est un peu mon endroit de prédilection, la musique mixte, c'est-à-dire qui associe une partie électronique à un instrument acoustique, parce que je trouve que ça permet un espace d'expressivité assez beau en fait, et que j'aime travailler régulièrement, et notamment bon, là avec l'orchestre, c'est encore plus particulier parce qu'évidemment il y a énormément d'instruments, et donc ça demande beaucoup de souplesse et d'ajustement pour que les instruments et tous les sons que contient l'orchestre ne mangent pas la partie électronique en fait, parce qu'on a des effets de masquage et tout ça, mais c'est un travail passionnant d'orchestration.
Ça va être gigantesque parce que l'orchestre, il y aura 16 musiciens répartis dans la salle, il y a un danseur, chanteur.
Il y a 97 musiciens en tout, dont 16 qui sont en effet dans le public en fait. Donc oui, c'est une énorme masse sonore qu'il faut gérer. Après, ça c'est des affaires d'orchestration, hein, comme à l'époque, à la fin du 19e. En fait, finalement, l'électronique rajoute d'une certaine manière une couche de musicale d'orchestration à prendre en compte, justement pour essayer de travailler des effets de masquage, de tuilage. C'est un peu, en fait, j'ai pensé la partie électronique vraiment comme une chose orchestrée en parallèle à la partie instrumentale, disons.
Alors je me retourne vers vous, Hélène, puisque je vous connais au départ comme écrivaine, et puis on vous doit des livres notamment consacrés à Alix Cléo-Roubaud, cette photographe disparue prématurément. Et comment vous en êtes arrivée à travailler comme ça avec Sacha Blondeau et François Chéniaud sur cette création?
On aime dire que c'est d'abord une histoire d'amitié, qu'on travaille avec Sacha Blondeau. On s'est rencontrés à la Villa Médicis quand on était pensionnaire en 2018, et on a tout de suite eu envie d'initier un dialogue entre texte et musique. Et on a commencé, Sacha m'avait proposé d'écrire un poème pour accompagner une partition pour violon. Ensuite, je lui ai retourné l'invitation, et quand j'ai été invitée à faire une lecture de mon dernier livre, Voir de ses propres yeux à la Maison de la Poésie, je lui ai proposé de composer aussi de la musique pour accompagner cette lecture. Et quand Sacha a eu la commande de l'Orchestre de Paris, il m'a proposé d'écrire le livret. Ce qui était une première pour moi. Et on a eu quand même un temps de travail commun avec François Chéniaud, puisqu'on a eu la chance d'être lauréate et lauréat de la Villa Albertine, et on a pu partir à San Francisco pendant plusieurs semaines, et c'est là qu'on a un peu commencé vraiment à travailler ensemble, et on a imaginé la pièce à partir des archives de la GLBT Historical Society à San Francisco, qui est un endroit qui conserve des archives LGBTQ. Et c'est à partir de ces images et des rencontres qu'on a faites là-bas qu'on a commencé à écrire le livret.
Et alors vous avez été exposé à des contraintes auxquelles vous n'êtes pas habitué, parce que l'écriture solitaire d'un livre, bon, il y a la contrainte, il peut y avoir de l'éditeur qui vous fait remanier certains passages, mais là, il y avait la contrainte de la musique, enfin, contrainte entre guillemets. Donc ça a été quoi, un dialogue constant? Et Sacha Blondeau, parfois vous renvoyez votre copie en vous disant non mais ça c'est pas possible, ou comment ça
alors,
se passe?
Oui, mais il le faisait plus gentiment, mais oui,
non,
en fait,
j'ai pas voulu être désobligeant.
Sacha a d'abord fait un découpage. Alors c'est la chance que j'ai eue, c'est que Sacha travaille de manière très précise. En fait, il visualise d'abord ses pièces, donc on avait quand même l'idée d'un mouvement général qu'on a discuté ensemble, et moi j'ai à partir d'une idée que j'ai eue d'écrire sur le cortège en fait. en me disant, voilà, cette pièce, on savait qu'il y avait cette énorme masse d'instruments et musicales.
Oui,
on savait qu'il y avait...
C'est votre choix, la masse d'instruments. Oui, c'est pas l'Orchestre de Paris qui vous a dit, il nous faut 97 musiciens.
Et je savais qu'il y avait que François Chéniaud était soliste, enfin que c'est lui qui allait a priori porter le texte. Donc je me suis dit voilà, on va raconter l'histoire d'une personne qui sort de chez elle et qui rencontre une foule, une multitude, et on va essayer de pas qualifier cette foule. On ne sait pas si c'est une manifestation, si c'est un cortège funéraire, si c'est un carnaval. Enfin peut-être que c'est tout ça à la fois. Et ça en fait, cette idée-là, elle est née des contraintes de cette pièce, en fait, du nombre de musiciens, etc. Et puis après, avec Sacha, on a fait un découpage très précis et je lui ai proposé plusieurs versions du texte qu'on a ensuite discuté.
Alors Sacha Blondeau, en fait, vous le disiez, c'est une écriture mixte, orchestre traditionnel, entre guillemets, et instrument électroacoustique. Mais comment ça se passe quand vous écrivez ? Est-ce que vous écrivez et puis après vous orchestrez, vous pensez à un mélange ou alors l'écriture, tout se fait en même temps en fait.
Alors comme le disait Hélène, elle parlait de précision, mais c'est surtout que je suis très maniaque concernant les questions formelles, c'est-à-dire que je fais des plans extrêmement précis avant en fait de commencer la partition. Bon, après je travaille avec tout un système justement pour essayer de préciser le matériau au maximum et la forme et l'arc dramaturgique. Ce qui fait qu'en fait, dès l'instant où je commence à écrire la partition, j'écris tout en même temps et généralement, je vais du début à la fin comme ça.
Mais alors, comment vous répartissez ? La question ne se pose pas, en fait, ça s'impose de répartir entre les instruments électroacoustiques
et... Ben oui, parce que en fait, dans les plans que je fais au départ, j'essaye d'insérer un... Enfin, il y a énormément de paramètres qui sont à prendre en compte. Et du coup, l'idée de ces formes très maniaques, c'est qu'en fait, justement, étant donné la profusion de paramètres qui sont en jeu, pour avoir une sorte de cohérence formelle avec tous ces paramètres, il faut y penser au préalable. Et justement, par exemple, si on parle d'orchestre, penser en termes de densité, de registre, de timbres qui sont utilisés à tel ou tel moment. Donc évidemment, ça préfigure ce que sera l'orchestration ensuite, puisque selon tel timbre, selon telle dynamique, évidemment, ça implique des choix orchestraux un peu prédéfinis à l'avance.
Alors le chef qui va diriger cette œuvre, c'est Alain Altinoglu, qui lui a rompu à tous les arts qu'on peut admirer dans tout type de répertoire. Il y a eu un dialogue avec lui préalable ou au moment de la création, ou alors c'est intervenu après
Non, en fait, on s'est surtout vu au moment de l'enregistrement de la simulation.
Donc excusez-moi, l'enregistrement de la simulation, c'est-à-dire que vous faites une simulation électroacoustique.
Oui, en fait, on avait besoin, étant donné qu'on a très peu de répétitions avec l'ensemble, avec l'orchestre, on en a trois. François, habituellement, qui a une pratique de danseur.
François
Chéniaud travaille pendant des mois, en fait, souvent avec la musique et tout ça. Et donc là, il nous fallait un support sur lequel travailler. Puis en fait, en réalité, François a tout appris par cœur, il doit connaître la musique totalement, et y compris électronique, pour savoir à quel moment placer tel texte, telle ligne vocale, et puis évidemment la partie chorégraphique. Donc en fait, on a enregistré toute la partie d'orchestre en février, et parallèlement à ça, moi ça m'a permis en fait de tisser tout autour de cette partie d'orchestre acoustique, disons, l'écriture électronique en fait, qui est vraiment fusionnée en fait à la partie orchestrale.
Vous, Hélène, vous disiez que vous aviez déjà collaboré avec Sacha Blondeau, donc pour une œuvre pour violon et texte. Mais enfin, vous allez vous retrouver à la Philharmonie les 8 et 9 juin avec une énorme machine. Ça doit être quand même quelque chose d'assez étonnant pour quelqu'un comme ça qui est habitué à une écriture solitaire, de vous retrouver au milieu de tout ça.
Oui, c'est très impressionnant, c'est aussi très joyeux. J'ai pas non plus beaucoup l'occasion d'entendre mon texte dit ou chanté, ni dans une telle salle, pour être honnête. Enfin, quand même, moi j'ai l'habitude de publier des livres où les gens lisent de manière solitaire
dans
ces livres-là.
Ouais.
Mais c'est assez passionnant de voir ce que ça tisse. Bon, moi j'ai une manière d'écrire qui ressemble à celle de Sacha, enfin, c'est-à-dire que je fais des plans et ensuite j'écris de manière linéaire. J'écris jamais mes livres par morceaux. Donc c'était passionnant pour moi de découvrir qu'il peut y avoir des similitudes entre l'écriture musicale et l'écriture littéraire. Et ça a aussi été très exigeant dans la forme même. Alors, je ne vais pas peut-être rentrer dans la cuisine très précise, mais par exemple, un livret demande des phrases plutôt courtes, par exemple, parce que la dimension musicale, en fait, implique un autre rapport au temps. Donc, ça a été aussi une réflexion sur la grammaire très exigeante grâce à Sacha. On a beaucoup joué sur les pronoms. Enfin, on a cherché un texte qui exprime différentes vitesses. Voilà, une de nos questions principales était celle de la vitesse. Alors comment est-ce qu'on donne une impression de vitesse en écrivant? Et ça m'a permis de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées en réalité. Donc j'ai l'impression que je vais retourner à ma table solitaire d'écrivaine avec des cordes en plus à mon arc, en fait, grâce à cette expérience.
Mais ça va modifier votre manière d'écrire ou...
Peut-être que ça va modifier des choses. Là, je suis en train de terminer un autre livre, alors il faudrait que je voie ce qui est à l'œuvre. Mais oui, je pense que ça m'a donné un autre rapport à l'écriture. Ça m'a... Ouais.
Et alors, juste une parenthèse, on en parlait hors micro, parce que votre éditeur, c'est juste pour lui rendre hommage, Maurice Hollander, au Seuil, vient de nous quitter, comme on dit. Et visiblement, tous les auteurs qui étaient liés à Maurice Hollander sont désespérés par cette disparition. Enfin...
Oui, Maurice Hollander était un éditeur extraordinaire. J'estime que c'est une des plus grandes chances que j'ai eues d'être publiée par lui, très jeune, avec cette chose très belle qu'il faisait de choisir ses autrices et ses auteurs. J'ai pas envoyé de manuscrit, on s'est rencontrés et l'aventure éditoriale a commencé comme ça. Maurice Hollander disait aussi que sa collection, c'était une collection d'amis et qu'on n'était pas simplement ses autrices et ses auteurs, on entrait un peu dans une famille et c'était pas une formule. Et je crois que c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait, d'essayer de continuer à travailler avec l'amitié au centre des pratiques, parce que l'amitié, c'est pas une question de copinage, c'est aussi peut-être un endroit où on peut être particulièrement exigeant. On peut dire aux amis des choses qu'on ne dit pas parce qu'on est très poli aux gens qu'on connaît moins. Et j'aurais adoré que Maurice voie cette pièce, puisse l'entendre les 8 et 9 juin. Il était au courant du projet, j'en avais parlé dès le début, il était très enthousiasmé parce qu'il aimait aussi beaucoup la musique. Mais j'aurais évidemment une pensée pour lui ce soir, le soir de la première.
Enfin, quand on voit en quelle compagnie vous êtes dans cette collection, on est heureux pour vous, Georges Perec et d'autres. Hélène, alors Sacha Blondeau, cette œuvre qui va être créée les 8 et 9 juin prochains, elle va être en belle compagnie quand même, puisqu'il y a deux œuvres phares d'Edgar Varèse dans City 21-5. Donc cette œuvre pour flûte qui sera jouée par Vincent Pras, je crois, qui est un des flûtistes solos de l'Orchestre de Paris. Et puis Amérique, qui est une œuvre gigantesque. Ça, c'est un choix d'Alain Altinoglu.
Oui, absolument. Il y a eu toute une réflexion sur le programme et évidemment, c'est toujours difficile de choisir un programme quand il y a une création et dont on ne sait pas tellement ce que ça donnera au départ. Et je pense que ça fait sens. Et puis, il a eu cette très belle idée, je trouve, d'ajouter au milieu de cet énorme dispositif qui est Amérique, et puis bon, la pièce cortège est aussi conséquente en termes d'effectifs, d'ajouter Densité 21-5 qui est pour flûte seule et qui est aussi une sorte de rappel à la figure de François qui est un peu seul face à l'orchestre. Et je trouvais ça beau de mettre comme ça en miroir cette petite pièce pour flûte qui aussi fait évidemment écho avec le début d'Amérique et toute cette partie de flûte.
Et vous, Edgar Varèse, enfin, à part le fait que c'est un immense compositeur, il revêtait une importance pour vous ou alors c'est les circonstances?
J'ai toujours eu pas mal d'affection et par ailleurs, c'est drôle parce que bon, Alain ne pouvait pas le savoir, mais on m'a souvent parlé de Varèse à propos de ma musique. Je pense que c'est parce que j'ai un certain amour pour les cuivres et que évidemment chez Varèse c'est une chose très importante. Mais oui, c'est un compositeur que j'ai toujours beaucoup apprécié, qui est quand même évidemment une figure marquante et qui a aussi fait un peu partie des pionniers de la musique mixte, puisqu'avec Désert par exemple, qui est une musique qui intégrait déjà des sons pas électroniques, des sons électroacoustiques enregistrés et tout ça, mais qui a eu les premières qui a eu une expérience en tout cas vis-à-vis de ça.
Sacha Blondeau, on en parlait aussi hors micro. Je vous demandais au départ ce que vous étiez comme instrumentiste. Vous avez fait du piano, notamment. Donc là, vous écrivez à la table, comme on dit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a... Pour nous, les béotiens, c'est très impressionnant.
Oui, alors il peut m'arriver de toucher au piano pour faire des... Pour vérifier, comme on dit, si on n'écrit pas de bêtises, mais c'est vrai que je me suis habitué à écrire à la table. Ce qui est un exercice d'écoute intérieure, mais aussi de grand stress, puisque évidemment c'est un exercice de pure spéculation, puisqu'en fait, bon, là, c'est ma première pièce d'orchestre en fait, et je pense que j'ai une facilité à me mettre dans des situations un peu challengeantes.
Disons, ah bah là, parce vous avez bien chargé la barque. Là,
parce que alors j'avais chargé, mais pas tellement pour me dire que oh là là, j'allais prendre un orchestre par quatre gigantesque et tout ça. C'est aussi parce que en fait, le désir au départ de mettre une partie des musiciens dans le public, et notamment pas mal de cuivre, faisait que pour pouvoir faire des déplacements par exemple d'un groupe à l'autre, y compris sur scène et tout ça, ça impliquait d'en avoir beaucoup. Et donc ça multipliait le nombre de cuivre, de vent et tout ça, donc évidemment l'orchestre devient de plus en plus gros, plus on rajoute de vent. Donc ce qui explique un peu la taille importante de cet orchestre. Mais oui, voilà. C'est...
Donc, Hélène voulait ajouter quelque chose.
Oui, je veux juste dire, pour continuer à parler de la cuisine, que Sacha écrit à la main sa partition. Donc moi, j'ai aussi, j'ai eu la chance de pouvoir voir le travail de
vous
Sacha.
Vous écrivez à la main aussi.
Un peu, mais j'écris aussi à l'ordinateur. Mais là, et Sacha a dû acheter une table pour cette partition, et je trouve ça important de le préciser. Puisqu'il y a tellement de monde dans Cortège que il pouvait pas écrire sur une table normale, donc il a dû acheter une table d'architecte pour pouvoir écrire la partition, et ça donne en fait une idée du nombre de portées aussi qu'il y avait dans pour l'écriture de Sacha.
Et cette partition, on pourra la voir, parce que ça nous intéresserait aussi.
Oui, bien sûr, elle est éditée. Mais c'est sûr que oui, en fait, la différence avec une pièce de Mahler, par exemple, avec des effectifs gigantesques. Mais la partition est beaucoup plus réduite, parce qu'à cette époque, il faisait beaucoup moins de ce qu'on appelle les divisies aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on écrivait une partie pour beaucoup d'instruments, beaucoup de cordes, par exemple, ou éventuellement de cuivre. Alors qu'ici, en fait, étant donné qu'en plus, il y a des groupes qui sont distincts, il y a quasiment une écriture de soliste parfois, ce qui fait que là en effet il y a 50 portées, et donc potentiellement il faut essayer d'imaginer ce que ces 50 voix qui par ailleurs parfois sont jouées à plusieurs donneront en fait. C'est pour ça que je parlais beaucoup de spéculation, parce qu'en fait imaginer 50 personnes qui jouent en même temps, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que d'un point de vue perceptuel, d'imaginer 50 lignes parallèles, ça n'est pas possible. Donc en fait c'est énormément de spéculation et de jeu, évidemment, d'orchestration et tout ça.
Et donc là, pour vous le disiez, l'orchestre a enregistré en février, enfin justement pour que vous fixiez un tempo, j'imagine. Et donc déjà, là, vous vous rendez compte de ce que vous avez écrit, parce que vous écrivez, et puis en fait, vous parlez de l'orchestration, mais il y a des choses qui apparaissent à l'écoute que vous ne pouvez pas réaliser, malgré votre expérience.
Oui, en fait, d'où le degré de stress avant, parce qu'en fait, je pense qu'il y a finalement peu de pratiques artistiques où on a ce rapport-là quand même à une production qu'on fixe quand même un peu totalement sans savoir vraiment totalement ce que ça va donner au final. Donc ça fait beaucoup de responsabilités et c'est vrai que la première lecture est toujours très très intense, puisqu'on découvre enfin ce que ça donne, et on est toujours on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise et heureusement là ça s'est plutôt bien passé, et pour l'orchestre aussi, je crois qu'ils étaient quand même relativement contents. Parce qu'évidemment, faut aussi, on écrit pour des instruments, donc il faut aussi que les choses soient jouables. Donc il y a aussi cette partie-là de surprise qui peut être parfois un musicien qui va venir vous dire « Écoute, t'es gentil, mais là, c'est pas jouable ton truc. » Or là, bon, jusqu'ici, tout va bien, comme dit l'expression. Et donc pour l'instant, non, on est assez content de ça.
Hélène, vous parliez de votre rencontre avec Sacha Blondeau à la Villa Médicis, ce qui nous rend tous jaloux, les gens qui ont fait cette expérience de la Villa Médicis en 2018. Mais vous, vos goûts musicaux étaient très éclectiques, ou alors vous portez vers cette musique, ou alors vous parliez d'amitié, l'amitié a préludé l'affection pour la musique. Comment ça s'est passé?
Mais je pense que j'ai toujours beaucoup aimé aller écouter des concerts. Ça a toujours été important pour moi, mais je connaissais assez peu la musique contemporaine, pour être honnête. Ça a été aussi l'occasion de découvrir beaucoup de choses grâce à Sacha, qui m'a proposé, quand on a commencé à travailler ensemble, à Rome déjà, il m'a fait écouter des choses, on a pu aller écouter des concerts, ce qu'on a continué ensuite. Et c'est vrai que ça m'a semblé être un espace passionnant et qui résonne aussi avec la littérature. En fait, il y a eu plein de choses qui ont été faites entre des compositeurs et des auteurs contemporains et qui permettent... J'ai l'impression qu'on se donne des choses mutuellement. Par exemple, pour Cortège, une de nos idées, c'était peut-être d'éviter des formes trop classiques. C'est pour ça qu'une partie du texte, par exemple, va être récitée, ce qui fait de Cortège une pièce singulière. Tout n'est pas entièrement chanté. Enfin, on a du mal, par exemple, à dire... voilà, on dit une pièce, certains demandent c'est un opéra, on dit non, ce n'est pas un opéra. Enfin, comment est-ce qu'on peut... Dans quelle catégorie on peut ranger cette pièce ? En fait, c'est assez... assez complexe, et c'est ce qu'on cherchait en fait à déjouer un certain classicisme. Et non, la musique c'est très important, mais j'avoue que je n'y connais pas grand-chose.
Mais alors justement, je parlais de votre travail sur Alix Cléo-Roubaud, donc sur la photo, vous avez écrit des textes magnifiques. De toute façon, je m'en fiche si vous rougissez, puisque de toute façon c'est purement audio. Et vous avez déjà songé à écrire sur la musique, parce qu'on dit que c'est quand même un art particulièrement difficile.
Je me sentirais pour l'instant pas du tout capable. Je peux écrire avec de la musique, pour de la musique, mais sur de la musique, ça demande une technicité que je n'ai pas. Enfin, là, on a eu la chance très récemment de collaborer avec une musicologue, Hélène Cao, qui a écrit la note de
oui,
programme.
Elle écrit beaucoup pour la Philharmonie, Hélène Cao. Ouais.
Et je vois bien que ben, c'était passionnant cet échange et aussi la facilité avec laquelle elle a mis des mots sur nos intuitions et sur ce travail commun, et j'étais assez admirative de la vraie technicité que ça demande. Moi, j'écris plutôt... j'écris des récits, j'écris de la littérature, mais si j'ai une écriture technique à un endroit, c'est plutôt quand j'écris sur l'art contemporain, et ça demande un certain vocabulaire, et pour la musique, je n'ai pas pour l'instant. Je ne sais pas si je l'aurai un jour, mais ça m'intéresse plutôt de la collaboration à l'intérieur des pièces, en fait. Et ça, j'aimerais poursuivre. Je veux poursuivre le dialogue avec Sacha. Ces allers-retours entre musique et littérature me semblent vraiment extrêmement riches.
Alors, Sacha Blondeau, vous le disiez, François Chéniaud va à la fois danser, dire le texte, le chanter. Quand on pense... à dire un texte et à la musique, on pense à certains de vos illustres prédécesseurs comme, je sais pas, le Pierrot Lunaire de Schoenberg ou l'histoire du soldat de Stravinsky Ramu. Enfin, je sais pas si vous y avez pensé ou si tout ça.
Alors j'y ai pensé en même temps. C'est toujours difficile de se positionner sur un terrain où on dit c'est inédit et tout ça. Et en revanche, c'est vrai qu'il y avait quand même cette chose inédite que François est un performeur qui danse et qui chante, ce qui est quand même pas très courant. Et donc,
moi qui suis incapable de faire l'un ou l'autre.
et donc, en fait, moi, il y avait en fait finalement beaucoup de choses que je voulais éviter. Alors, c'est toujours difficile de faire en création, je pense, avec l'évitement, avec la peur de faire avec le ne pas, quoi. Mais je pense que du coup, il y a certaines personnes qui sont venues écouter des filages, par exemple, qui nous ont dit oui, c'est un ovni cette chose, parce que et je pense que c'est c'est vrai parce que justement, on a cette figure qui, à la fois, pourrait avoir une figure de récitante, mais en fait, c'est pareil. Mais c'est une figure que je voulais éviter, c'est la musique avec récitant. Parce que je trouve que souvent, ça peut être très théâtral et que finalement, il y a une coupure en fait, entre la partie musicale et la partie du texte, qui est finalement souvent assez surplombant. Parce que, bon, quand même, faire avec du texte, le sens du texte mange souvent, prime souvent sur la musique. Or là, je pense que quand même, on a cherché à essayer d'avoir une chose qui est totalement intégrative et que le texte, la voix quand elle émerge et la danse sont vraiment intégrées. Enfin, il y a un travail de fusion en fait avec l'orchestre, de la même manière que l'électronique essaye de fusionner avec l'orchestre. Et je crois que ce qui a aidé aussi, c'est que finalement le texte et son sujet était déjà, donnait beaucoup de pistes en fait sur comment on pouvait penser ça et tout ça. Donc je crois que oui, ça fait une figure très particulière. Après, il se trouve que François a une pratique de la voix qui est celle de quelqu'un qui a appris seul, en fait.
Il est autodidacte.
Il est autodidacte, ouais. Et du coup, il a aussi travaillé, il travaille avec beaucoup de références et de cultures différentes. Et ce qui fait que moi, je voulais aussi, pour ce qui est des ne pas travailler avec une voix lyrique, en fait. Et moi, je connais la musique et les voix de la musique contemporaine, mais justement, je voulais un peu sortir de ces voix qui sont belles et très virtuoses. Mais là, l'idée, c'était aussi de travailler avec des expressions, des expressivités qu'on ne trouve pas régulièrement dans le registre de la musique contemporaine. Et c'était aussi possible parce que François est aussi prêt à tester tout un tas de choses, peut-être davantage que des chanteurs professionnels qui sont rompus à l'exercice, mais qui du coup sont aussi sur des terrains qui sont ceux de leurs habitus, quoi. Et donc là, la voix, encore une fois, pour faire un parallèle avec le Pierrot Lunaire, par exemple, avec tout ce qui est parler, chanter et tout ça, on a fait beaucoup d'essais comme ça, et finalement la voix qui émerge est souvent une voix sans texte et qui est sur des expressions et des vocalités qui appartiennent finalement davantage à une musique plus populaire, extra-européenne, en fait. C'est-à-dire on est allé chercher de ce qui se faisait sur les champs en Italie, Corse, parfois en Iran, dans plein de pays où en fait la notion d'expressivité, puisqu'on parle aussi de questions de deuil et autres, est extrêmement forte. Et pour le coup, c'est des affects qu'on trouve finalement rarement dans la musique, même du 20e en général. Il y a l'expressionnisme allemand, évidemment, mais qui est tout à fait différent, qui est en fait très très stylisé et qui... Je trouve le parallèle intéressant parce que voilà, il y a cette action de l'expressivité chez Schoenberg qui est extrêmement forte, par exemple. Et là, finalement, on est finalement sur des expressions qui sont parfois aussi marquées que ce qu'on a dans l'expressionnisme, mais dans un timbre et dans une écriture qui est davantage celle d'une musique populaire. Donc, ça fait un paradoxe, en fait, que je trouve intéressant.
Alors, on a parlé du livret, de la musique, de François Chéniaud, danseur-chanteur, pour cette création des 8 et 9 juin prochains, la Philharmonie Cortège. Mais alors, il y a aussi il y a Alain Tinoglu qui dirige l'Orchestre de Paris. Et puis, on voit aussi Serge Le Mouton, électronique IRCAM, Lucas Bagnoli, diffusion sonore IRCAM, Anthony Merlot, création lumière, Baudouin Vorl, collaboration artistique au plateau, Cédric Deboeuf, création costume, Myriam Jarmach, accompagnement vocal, et Martina Catella, coaching vocal. Ça aussi, c'est considérable.
Oui, c'est tout un cortège. c'est beaucoup de monde parce que, en fait, déjà, il y a un effectif relativement important, et ouais. Que par ailleurs, dès qu'on a une partie musicale électronique, on a la chance avec l'IRCAM qu'il y ait des équipes complètes qui viennent et qui nous accueillent et qui nous accompagnent, qui sont extrêmement forte et c'est des conditions luxueuses en termes de son. Et par ailleurs, je pense que là, ce qui était bien, c'est qu'on a eu aussi ce qu'on voit davantage finalement en danse ou au théâtre, qui sont des équipes où en fait il n'y a pas qu'un interprète et un ensemble, par exemple, mais il y a aussi tout un tas de gens qui aident à la création, qui vont être des regards extérieurs, qui vont être des gens qui en fait vont aussi beaucoup marquer ce que sera la pièce au final. Et Baudouin Veul, par exemple, et en ce moment travaille avec nous et donne plein d'idées et de regards sur l'aspect scénographique, même si à la Philharmonie il est minimal, mais il n'y a pas que le décor, en fait. Bon, là on n'a pas de décor, par exemple on travaille sur un plateau vierge, mais en revanche il y a tout un tas de questions qui se posent, et c'est une vraie richesse d'avoir des gens comme ça qui viennent et qui sont aussi des sortes de, qui amènent une nourriture en fait supplémentaire, y compris le costumier. Moi j'ai découvert ça, évidemment j'ai jamais travaillé avec un costumier, mais Cédric Deboeuf, là c'était incroyable, il est venu, il parlait des tissus, enfin j'étais absolument émerveillé. En plus, lui il a un travail de fou parce qu'il nous parlait des costumes qu'il était en train de faire pour Beyoncé, Chantal Goya et Donald, parce qu'il travaille aussi pour Disney. Enfin, je trouvais ça fabuleux en fait, comme ça ce mélange absolument improbable de référence. Et puis par ailleurs, il y a Myriam Jarmache aussi qui travaillait sur Tumulus, qui est une pièce qu'a fait François, qui est en tournée en ce moment, qui est chanteuse et performeuse et qui vient nous aider, qui aide François en fait pour la partie vocale, mais qui est absolument fondamentale sur tout le travail vocal et qui a aussi amené des idées. Bon, Martina Catella, qui elle était plus spécialiste des questions des voix extra-européennes, qui a amené aussi, avec qui on a travaillé sur des recherches de timbre et tout ça. Donc ça a été vraiment une chance en fait d'avoir cette équipe-là qui est en fait très complète, enfin, qui est très diverse, mais qui du coup a amené toute la diversité qui était nécessaire pour un projet aussi singulier.
Tout ça nous donne une grande hâte d'écouter cette création les 8 et 9 juin prochains à la Philharmonie, donc cortège avec l'Orchestre de Paris et bien d'autres, en compagnie aussi de la musique d'Edgar Varèse dans City 20.5 et Amérique. Je vais laisser peut-être le mot de la fin à Hélène Gianecchini, qui est habituée justement, quand on voit ces énormes forces mises en œuvre pour cette création, et vous qui êtes justement habituée à l'intimité de l'écriture, justement, parce qu'on se demande toujours à un compositeur, quand il entend sa musique, qu'est-ce que ça lui fait, et un auteur ou une autrice, quand elle entend ou il entend son texte comme ça dit, ça donne une dimension surprenante, ou enfin un éclairage complètement inattendu.
Oui,
c'était vous avez déjà fait l'expérience, puisque vous avez déjà collaboré avec Sacha Blondeau.
Oui, mais d'ordinaire je lis moi-même mes textes, donc là c'était autre chose. C'est aussi moi, une chose qui m'intéresse peut-être, qui est de brouiller les contours de la figure de l'autrice. Enfin, j'ai donné ce texte à Sacha, puis à François Chéniaud, qui le lit aussi avec son interprétation. Et ce n'est plus exactement mon texte. Enfin, c'est allé au départ, mais disons qu'on le partage. Et que ce qu'en a fait Sacha, ce qu'en fait François Chéniaud sur scène, ça donne aussi des choses au texte que moi, je n'avais pas forcément vues. Et c'est ça que je trouve assez passionnant. Ça ajoute en fait d'autres dimensions à une pratique qui est effectivement d'ordinaire plutôt solitaire.
Ben, en attendant cette création des 8 et 9 juin prochains à la Philharmonie de Paris, il me reste Hélène et Sacha à vous remercier infiniment d'avoir été mes invités.
Merci à vous pour l'invitation.